c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé. Avec Mazagran Immobilier, la Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les 2 Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saintonge et sur mazagran-immobilier.com.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. Aujourd'hui, on va consacrer une page spéciale aux 20 ans de Caméra Café qui vont être fêtés demain soir sur M6. À cette occasion, Bruno Solo et Yvan Le Bolloc vont nous rejoindre dans une poignée de secondes. Et puis, nos coups de cœur télé continuent également avec l'histoire d'Annette Zellman, Vassily Schneider, Ilona Bachelier vont être notre invités d'ici quelques instants. Valérie Carcenti va venir nous parler de la soirée finale de lycée Toulouse-Lautrec pour TF1. Thibaut de Montalembert également va être notre invité exceptionnel pour nous parler de Piste Noire. On va essayer de savoir si 10% va revenir également. On va lui poser la question évidemment. Et puis en fin d'émission, événement avec Vaincre ou Mourir, la première production du Puy du Fou. À cette occasion, le producteur Guillaume Allaire, Hugo Becker et Jonathan Demurger vont venir nous rejoindre en fin d'émission. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors c'est parti pour notre spécial Caméra Café.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Caméra Café, les 20 ans. Oui, Jean-Claude Convenant et Vévert, is back. Ils sont de retour pour le meilleur et pour le rire.
Arbach. Ah oui, Arbach. À ne pas confondre avec Arbeit, qui veut dire travail en allemand, mais Arbach. S'ils sont plusieurs, c'est Ar.
Yvan Le Bolloc et Bruno Solo qui va nous rejoindre dans un instant. Quel bonheur de vous retrouver. Franchement, on est tellement content de vous revoir pour une soirée anniversaire qui s'annonce pleine de surprises, Yvan.
J'espère, oui, 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 pleine de surprises. Déjà, le fait de retrouver 20 ans après les héros de Caméra Café, effectivement, Hervé Dumont, Jean-Claude Convenant, mais aussi tous les autres acteurs, Maëva, Alexandre Pell, et puis même des nouveaux, en la personne de Walidia. J'espère que ça va être une succession de bonnes surprises.
Alors, Jean-Claude va vivre un événement sans précédent dans l'histoire de la boîte, et va s'en retrouver chamboulé, ce qui va permettre justement à lui et Hervé de se remémorer les plus belles années avec évidemment de nouveaux sketchs inédits et l'occasion pour vous de revivre de belles scénettes. C'est bien dit.
Oui, oui, oui. On avait commencé la série à l'époque, c'était le 5 ou le 4 septembre 2001 et tout le monde sait que quelques jours plus tard, le monde allait basculer avec les attentats du World Trade Center et donc 20 ans après, on s'est dit M6 est dans une période d'anniversaire, de rétrospective sur tous les programmes qui ont marqué l'histoire de la chaîne. Donc pourquoi pas proposer à M6 un Caméra Café géant.
Ils ont accepté tout de suite.
Oui, oui, ils sont sympas. Ils sont sympas et puis aussi ils savent un peu ce qu'ils nous doivent, je pense, parce que M6, c'est une chaîne généraliste. Donc c'est une chaîne généraliste. Il y a des programmes, il y a le Loft et puis il y a eu aussi, il y a aussi Kaamelott, il y a eu aussi Caméra Café en fiction, en programme court. Il y a eu des choses qui ont été assez marquantes pour la chaîne. Donc c'était assez logique et cohérent de proposer cette idée à M6 qui a sauté dessus à pieds joints en disant mais quelle bonne idée vous avez eue là. Mettez-vous au boulot.
Voilà. Il y a longtemps, vous aviez envie de réendosser vos costumes tous les deux avec Bruno et en tant que vous en discutiez en tout cas.
Alors personnellement, caméra café, c'est quelque chose qui a beaucoup compté dans ma vie et professionnelle et personnelle. Et professionnellement, ça m'a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. C'est tellement rare d'avoir une idée dans sa petite tête un peu tourmentée et puis de la voir se réaliser et puis de la voir tourner, monter, projeter à la télévision et qui semble vraiment plaire aux gens. Ouais, pour moi, c'était vraiment, vraiment très, très important de marquer le coup et de proposer cet anniversaire. Ouais.
Alors, dans cette soirée anniversaire, il y aura plein de guests qui vont être présents. Évidemment, tous les anciens sont de retour aussi. Il y en a qui ont été difficiles à convaincre ou tout le monde y est retourné avec grand plaisir.
Non. Là, il y a eu une unanimité dans le camp français. Il y avait même des larmes le premier jour sur le tournage quand on a dit moteur ou quand ils ont réenfilé leurs costumes et qu'ils se sont retrouvés devant cette drôle de mise en scène. Hein, parce que Caméra Café, c'est un dogme. Un peu comme Lars von Trier, on n'avait jamais vu une fiction se réaliser sous l'œil inquisiteur d'une caméra de surveillance qui avait été planquée dans une machine à café.
Et là, on en sort quand même sur cette soirée. On s'aperçoit que l'entreprise est grande finalement, ça se cantonne pas à la machine à café. Hein.
Oui, bien sûr. Oui. Là, on est passé de l'autre côté du quatrième mur. Ouais, c'est ça.
Reconstituer les décors d'antan. Du coup, où ils avaient été gardés?
Non, mais les décors de la machine à café, il faut quand même avoir les pieds sur terre et reconnaître qu'il s'agit de trois planches en bois et un faux ascenseur dans le fond. Hein, donc c'est une bonne méthode pour tous ceux qui et toutes celles qui ont envie de se lancer dans la comédie. Donc après, il s'agit évidemment d'articuler les déplacements, de raconter des histoires, etc. Mais non, les décors n'avaient pas été gardés, pas plus que les costumes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement de mauvais goût, on voyait pas à qui ça pourrait servir. Hein.
Ils sont de retour pour notre plus grand plaisir. On va écouter un extrait de Caméra Café, ses 20 ans. Et puis on va revenir avec Bruno Solo juste après qui va nous rejoindre. Parce que évidemment, Jean-Claude sans Hervé, Hervé sans Jean-Claude, ça serait pas Caméra Café. On a le bonheur de vous avoir tous les deux aujourd'hui. Alors merci Yvan, en tout cas d'avoir été avec nous. On va écouter la bande-annonce et on revient juste après avec Bruno Solo. À très vite.
Vas-y, t'as l'air en forme toi ce matin, je me trompe.
Oh bah, faudrait être difficile, je viens changer les plaquettes de frein de la Xantia.
À quoi ça tient
hein. Non, puis je coche toutes les cases en ce moment, Bébert. Hein. Bon, côté pro, bon bah les ventes serrent à la gueule. Hein. Puis alors, côté cœur, depuis que j'ai touché mon nouvel aftershave, retiens minuit. C'est la fête de l'abricot. Je ramasse, mais t'as pas idée.
Moi, j'en suis sûr.
Sans compter que... ce midi, œuf maillot à la cantoche.
De retour avec Bruno Solo, chose première, chose du Caméra Café des 20 ans, quel bonheur de vous retrouver. On disait avec Yvan il y a un instant, je ne sais pas si le bonheur a été aussi total pour vous que pour nous, à vous revoir en tout cas pour une soirée événement, mais en tout cas, quel pied.
Oui, bah oui, c'était assez évident qu'on aimerait ce moment, à partir du moment où il vivrait. Quand on s'est retrouvés avec tous les camarades, les filles et les garçons qui feront quand même partie de notre vie quand même. Et puis on le sent quand on croise des gens, à quel point cette série, pour ceux qui se manifestent, hein, ceux qui n'ont pas aimé ont la délicatesse de pas se manifester. Mais ceux qui ont aimé, lorsqu'ils viennent nous voir, ils nous disent « Ah, quand est-ce que vous revenez ?» On sentait que c'était l'occasion unique, que les 20 ans, c'est un âge hautement symbolique, donc un anniversaire hautement symbolique. Pour ceux qui l'ont pas encore eu, vous le verrez, pour ceux qui l'ont eu, on s'en souvient de nos 20 ans. Donc voilà, l'idée de se retrouver et de raconter comment ces Veulois et ces Veuloises avaient traversé ces 15 dernières années avec tous les événements marquants, dramatiques et aussi tragiques, mais aussi un peu plus joyeux ces événements, on s'était dit, il faut montrer aux gens comment la Veule a traversé ces 15 dernières années. C'était une sorte de logique pour les 20 ans. Quoi. C'était le seul prisme par lequel on pouvait faire, plutôt que de faire un long sketch en dehors d'une actualité ou hors contexte, il fallait que ça soit traité comme ça et pas autrement.
Alors tout le monde est revenu évidemment dans ce retour, on le disait avec Yvan, on y suit évidemment Jean-Claude et Hervé dans leurs aventures. Jean-Claude qui vit un moment pas très sympathique dans cette entreprise, cet événement qui va eh bien vous faire remémorer toutes les grandes années que vous avez vécues pendant 15 ans. En fait, c'est tout simplement ce qu'on a raté pendant 15 ans où il n'y a pas eu Caméra Café. C'est ça qu'on revit finalement.
À Charlie Hebdo, à la fin de Charlie Hebdo, il y avait un truc, les couvertures à laquelle vous avez échappé cette semaine. C'est-à-dire qu'il y a une réunion de rédaction à Charlie, il y avait dans la rédaction, toujours maintenant, et puis ils choisissaient une couverture. Mais ils voulaient pas que le public ou les lecteurs passent à côté des autres choix qu'ils avaient pu faire. Ben nous, c'est ça. Tout ce à quoi Caméra Café avait échappé, ben on va vous en parler. Parce que si Caméra Café avait continué, évidemment qu'on aurait traité des attentats, évidemment qu'on aurait traité des gilets jaunes, de Balance ton port, de la Coupe du Monde, pour parler d'événements plus joyeux, de la mort de Johnny, pour parler d'événements marquants et tout. Évidemment qu'on l'aurait fait. Mais comme Caméra Café s'est arrêté, on l'a pas. On s'est dit, c'est dommage. Donc revenons. Une journée continue où Jean-Claude effectivement se fait virer pour des raisons qu'on va comprendre au fur et à mesure, entrecoupée de souvenirs à travers d'une photo qu'on retrouve, d'une discussion, d'un objet, et on se dit souviens-toi, et on remonte comme ça le temps jusqu'à aujourd'hui. Et j'en dis pas plus parce qu'il faut pas spoiler, mais évidemment on remonte jusqu'à 2020.
Et évidemment, Weber va tout faire pour sauver ses fesses, lui.
Ah ben Weber, de toute façon, c'est son principe de vie, genre se sauver après lui le déluge, quoi. Il se sauve et puis après, éventuellement, s'il peut tendre la main à quelqu'un qui pourrait l'aider lors de son sauvetage, il va faire monter dans son canot de sauvetage celui susceptible de le réparer. Pas évidemment quelqu'un qui va l'encombrer. Ça, c'est la philosophie fondamentale d'Hervé. C'est moi et les autres après. Et en même temps, ben voilà, c'est des monstres qu'on aime adorer. Jean-Claude, c'est un homme qui est traversé par la vie sans la comprendre. Moi, j'essaye de la comprendre, je fais semblant de la comprendre, mais elle me traverse aussi. C'est pour ça que ces deux personnages sont un peu pathétiques et qu'en même temps on aime les aimer, parce qu'on aime aimer les ratés, qu'on aime aimer les aussi quelque part un peu les monstres. Regardez De Funès était un type mesquin, étroit à l'esprit, enfin le personnage qu'il incarnait, raciste à l'occasion, lâche, veule, et pourtant moi encore mes enfants, enfin ma fille quand elle était petite et encore maintenant quand elle voit De Funès, elle pisse de rire, elle éclate de rire, parce qu'en fait on est très attiré par ce miroir déformant de ce que nous sommes. Et on est toujours en train de se dire, je ne suis pas comme ça, mais qu'est-ce que ça me fait rire de voir la cupidité en mouvement. Et ben voilà, Jean-Claude et Hervé, ce sont deux monstres sur lesquels on aime se moquer, effectivement. Et à la fin, c'est pour ça que, sans trop dévoiler, il y a une fin un peu pathétique, parce qu'ils ne méritent pas d'autre chose. Dans notre immoralité, on a une certaine morale. Il ne s'agit pas de sauver nos personnages, juste de les montrer tels qu'ils sont. En revanche, autour de nous, tous les personnages qui gravitent autour de nous s'en sortent plutôt mieux, parce qu'ils ont eu l'intelligence peut-être d'écouter l'époque, alors que nous on ne l'écoute pas. J'essaye de l'accompagner mais j'y comprends rien, et lui par contre elle la transperce, quoi, Jean-Claude.
Alors moi ce qui m'a frappé, c'est que ça fait 15 ans que vous n'aviez pas endossé vos rôles, et on a l'impression que vous les avez jamais quittés. Ça vous a fait la même chose quand vous êtes retourné sur le plateau, tous?
C'est-à-dire que moi j'ai fait un métier qui s'appelle comédien, donc c'est le principe, hein, quand même. Mais non, mais oui, bien entendu, dès lors qu'on a eu remis le costume...
T'as retrouvé l'éthique de langage, t'as tout retrouvé, quoi.
Oui, parce que dès lors que tu remets le costume, c'est 50% du travail qui est fait. Je dis pas que ça a été simple, hein, le premier jour, il a fallu retrouver cet équilibre entre le fait de regarder la caméra tout en s'adressant à ton partenaire sans trop le regarder, parce qu'autrement le public ne te voit plus. C'est du théâtre, Caméra Café. Donc cette idée de théâtre, effectivement, fait qu'on doit privilégier le regard vers le spectateur. Donc de temps en temps, ça a été techniquement un peu compliqué pour nous tous, mais au bout de... Oui, il y a des choses qui sont revenues. Vraiment, c'est l'expression qu'on connaît tous de nos grands-mères, c'est comme le vélo, ça finit par revenir. Et effectivement, ce tempo-là a fini par revenir. Maintenant, bon, voilà, c'est quand même notre boulot, quoi. Et puis je savais que tous les comédiens de Caméra Café, ce sont des comédiens qui continuent à bosser régulièrement, Armel, et voilà. Donc, ils n'ont pas non plus perdu complètement leur technique. Alors au début, tu fais appel à ta technique, et puis après, il y a du lâcher prise. Le lâcher prise a été plus compliqué à retrouver, mais la technique, on l'a pas totalement perdu, quoi.
Alors, est-ce que ça a donné des envies? Des envies particulières de continuer l'aventure ou de la reprendre par la suite, peut-être des téléfilms événementiels de temps en temps, régulièrement?
L'envie, cette première envie, déjà, on l'a assouvie. Voilà, c'est après la suite, on va pas se mentir, on est très tributaire de l'audience, et puis de si ça cartonne, même si ça nous dira ah c'est une bonne idée peut-être, si ça marche pas on en parle même plus, donc ce sera réglé. Donc ne présageons de rien, pas de l'avenir. Moi dans mon esprit c'est le baroud d'honneur, maintenant on verra. Voilà, nous étions très excités à l'idée de faire revivre ça pour les 20 ans. Après je voudrais pas que ça devienne un prétexte et faire le match de trop, vous savez, comme les boxeurs ou certains sportifs qui font le match de trop. Donc on avait su s'arrêter au moment où on était au sommet, vraiment, où Caméra Café cartonnait, c'est là qu'on avait dit on arrête, parce que ça ne pouvait que décliner, parce que c'est le cycle de la vie et le cycle des séries. Et là, donc si ça marche, c'est peut-être l'occasion encore plus d'arrêter que si ça ne marche pas. Donc on verra. Mais moi je me le projette pas dans ces choses-là parce que
une c'est jamais.
Oui, n'insultons pas l'avenir, et puis voilà, les vérités d'aujourd'hui sont les incertitudes de demain, voilà.
Exactement. En tout cas, moi, je vous promets une bonne soirée. Une soirée non seulement nostalgie, 100% inédite de Caméra Café. Vous allez rire, évidemment, cette semaine sur M6 pour ce grand retour pour les 20 ans de Caméra Café. L'occasion de passer une bonne soirée. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été avec nous.
À très vite, à très bientôt. Merci.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Dernière semaine de diffusion avant, évidemment, ce grand final que vous allez découvrir cette semaine sur TF1 Toulouse-Lautrec. La série événement, on en parle chaque semaine, on soutient cette série. Avec Valérie Carcenti qui est notre invitée aujourd'hui pour en parler, qui incarne Madame Lesplique. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On en parlait avec Fanny, avec Chine, avec Stéphane les semaines passées. C'est une série qui les a bouleversés, que ça soit d'un niveau humain, de rencontres aussi. C'est une série qui a vraiment été différente des autres pour eux à tourner. Est-ce que ça a été ton cas aussi, Valérie?
Ah oui. Et tout le monde a été emporté dans une sorte de torrent de tendresse, d'humour, d'émotions très fortes. C'est dû évidemment au projet en lui-même, à l'ADN du projet, l'écriture de Fanny, qui est exceptionnelle, de par sa sincérité, son engagement, ce dont elle avait envie de témoigner. Et puis aussi les gens qu'elle a réunis, elle, Stéphanie, qui a rejoint la série pour la réalisation. Et ce qu'on a vécu, effectivement, a été très fort. C'était un échange très puissant. Très fort.
Cette rencontre avec tous ces jeunes gens, ces jeunes comédiens, pour ceux qui n'ont pas suivi Toulouse-Lautrec dans les 4 premiers épisodes, on y suit le parcours notamment de Chine, qui est Victoire dans la série, qui fait évidemment la connaissance, qui est contrainte et forcée d'intégrer ce lycée, qui fait la connaissance de Marie-Antoinette. Ce lycée a la particularité d'intégrer des jeunes gens en situation de handicap et des personnes valides, qui sont référents un peu chacun à leur manière, et c'est des rencontres qui bouleversent évidemment toute une existence, et avec le personnel encadrant et enseignant évidemment aussi, qu'on sent très très concerné en tout cas dans cette série, ça c'est chouette.
Oui, non, mais pour avoir rencontré le directeur et co-directeur du lycée Toulouse-Lautrec, puisqu'il existe à Vaucresson, sont des gens non seulement concernés, mais d'un engagement absolu, quoi. Ils vivent des choses avec ces jeunes et ils ont à traverser avec eux des choses merveilleuses et des épreuves très difficiles. Il faut être très solide et en même temps, bah, comme le montre la série, la vie continue, ce sont des jeunes qui ont les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes envies que les adolescents valides. Et c'est ça qui bouleverse, c'est-à-dire que la série nous découvre un monde quand on n'a pas eu la chance d'avoir une personne handicapée dans sa famille ou dans ses relations, dévoile un monde à la fois miroir avec le nôtre, c'est-à-dire sur l'essentiel exactement la même chose, et en même temps une connaissance effectivement de leur quotidien, de leur courage, de leurs efforts, de leur vitalité et de leur humour absolument incroyable, bah, pour vivre leur vie, quoi.
Qui est Madame Lesplique? Comment tu la vois?
Madame Lesplique, bah, elle est très bien écrite par Fanny. Hein. J'avais un guide dans l'écriture qui était très sûr. C'est une femme qui se cache derrière sa fonction. Voilà. C'est-à-dire que elle ne fait absolument pas rentrer en ligne de compte ni son affect, ni ses sentiments, ni sa vie privée. Donc, c'est une fonction, c'est une co-directrice. Elle est prête à assumer toute la problématique de ce lycée, toute la problématique et les épreuves que vont traverser certains de ses élèves. Et elle ne veut pas être bouleversée ou fragilisée par l'émotion. Donc,
elle se met une carapace, on sent.
Une carapace. Elle a comme une armure. Elle travaille avec son armure. Et comme elle le dit très vite dès le premier épisode, je crois, elle traite l'avantage que ça a, c'est qu'elle traite les valides et non valides exactement de la même manière. Tout le monde est sur le même plan d'égalité. Après, évidemment, bah, c'est une personne humaine avec sa vie qu'on ne connaît pas, mais on va découvrir qu'en fait, c'est pas seulement au sein de ce lycée qu'elle se protège, c'est pour d'autres raisons également. Donc on la découvre, et notamment, elle va les accompagner. Là, elle va faire un voyage avec eux dans le 5e épisode. Elle va accompagner tous ces jeunes au Maroc, et à l'occasion de ce voyage, comme souvent quand on part en voyage, enfin, c'est des deux côtés en fait. Les jeunes se découvrent encore autrement, et les accompagnants, professeurs aussi, vivent des choses très fortes. Quand on part loin de chez soi, comme ça, on est plus proche finalement de soi. Et donc ça va être un voyage où on va découvrir Madame Lesplique autrement.
Parce que dans ces deux derniers épisodes, justement, ça va être un peu le voyage de classe, là.
Oui, c'est ça. C'est malgré les problèmes que rencontre l'école, et Monsieur Feuillade se bat pour... Enfin, le directeur Feuillade, Stéphane de Groot, se bat pour qu'il y ait quand même ce voyage de fin d'année. Et il va être bouleversant pour tout le monde.
je sens qu'on va encore passer un bon moment. Il y a de la comédie, il y a beaucoup de moments d'émotion et c'est à la fois très lumineux comme série. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on regarde. Je pense que les auditeurs et spectateurs qui ont vu déjà les quatre premiers, voilà, vont être conquis, j'en suis sûr. Et moi, je vous invite vraiment, à regarder la suite et le final de cette semaine. Vous allez passer, j'en suis sûr, un très bon moment.
Le final est absolument extraordinaire. Extraordinaire.
Puis au Maroc, sympa le tournage, ça s'est bien passé là-bas?
Ouais, très bien, on avait une super équipe au Maroc. On a eu la chance qu'il fasse pas, on avait très peur de crever de chaud, on y était au mois d'août, mais pas du tout. Il les faisait bon, puis c'était magique, on a tourné dans les dunes, dans le désert, enfin, c'était très beau.
C'est génial ça. Les projets, Valérie, pour terminer, il y a toujours Scène de ménage évidemment sur M6, et puis il y a du cinéma, du théâtre, d'atelier qui arrive.
J'ai un film qui va sortir, j'ai tourné avec Anne-Marie Vin et Guillaume de Tonquédec dans Toto, où je fais une méchante, une vraie méchante, je me suis régalée, très très bien écrit, très drôle. Et puis sinon, non, j'ai des projets de théâtre en fait, que je vais commencer à répéter, et c'est deux créations pour l'automne 2023.
On aura le temps d'en reparler ensemble, t'es la bienvenue, tu le sais quand tu veux, dans l'émission. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous, Toulouse-Lautrec. Le final, c'est cette semaine sur TF1. Merci beaucoup et à très vite.
Merci à vous, à bientôt.
Tu sais ce que tu fais à Toulouse-Lautrec? Tu es ici parce qu'on te fait la chance d'intégrer cet établissement.
C'est comment? Raconte!
C'est juste l'enfer, quoi.
C'est quoi cette histoire de référent?
Bah, vous allez être le référent d'un élève handicapé de votre classe. Vous allez aider le petit camarade qu'on va vous désigner.
Notre coup de cœur télé consacré à Piste Noire qui débarque ce soir sur France 2. C'est la série événement de ce mois de janvier. Après Vortex, eh bien, nous allons partir direction les montagnes avec cette nouvelle série. Et Thibaut de Montalembert qui est en ligne avec nous. Bonjour Thibaut.
Bonjour.
Un habitué de l'émission, on est très heureux de vous avoir à nouveau Thibaut pour parler du Major Servoz, évidemment, que vous incarnez dans cette nouvelle série. On va partir direction les montagnes. Alors, c'est une vraie série hivernale, on peut le dire, avec cette station fictive des Clérises où il se passe plein de choses, dites-moi.
Oui, alors il se passe plein de choses. Et alors le personnage, effectivement, il y a un personnage qui n'est pas, enfin, qui est omniprésent, qui est la montagne, parce que c'est vraiment parti. C'est pas une série qui aurait pu se tourner ailleurs, je veux dire. C'est lié à cet endroit.
Ah ben ça c'est clair, oui. Et puis là c'est un rôle, on n'a pas forcément l'habitude dans ce genre de rôle avec un look totalement remanié par rapport à 10% ou par rapport effectivement au film Miss. On est dans un rôle vraiment sérieux de gendarme à la montagne et c'est chouette de vous voir aussi dans un rôle tellement différent là.
Oui, alors c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté de faire ce tournage, parce qu'on a affaire à un scénario qui est assez classique, qu'on connaît relativement, c'est pas une totalement surprenant, mais il y a eu cette rencontre que j'ai faite avec le réalisateur Fred Grivois, qui n'est pas français, qui est canadien et qui a appris son métier au Canada et aux États-Unis, et ça se sent parce que il y a une façon de filmer, il y a un regard, il y a des choix de cadre, des choix de lumière qu'on n'a pas l'habitude de voir. En tout cas, dans le service public. Et quand on s'est rencontrés, tout de suite, il m'a dit, voilà, moi, j'ai envie d'aller dans cette direction. Et je lui ai dit, écoute, ça me va très bien. Et moi, j'ai envie, par rapport au personnage, d'aller dans cette direction. Et il me dit, c'était formidable, c'est ce que je voulais. Donc, on s'est mis d'accord très, très vite. Parce que c'est vrai que, j'avais déjà fait un gendarme, d'ailleurs, au même endroit, tourné à Morzine aussi. On avait fait un meurtre en Haute-Savoie 3 ans auparavant.
Oui.
Où je faisais gendarme, mais très différent, et je voulais vraiment faire une composition, aller dans une direction où je n'avais pas l'habitude d'aller et où on n'avait pas l'habitude de me voir, en créant un look, un physique vraiment différent, une façon de marcher, une façon de parler, une façon de se mouvoir, différente de ce qu'on avait l'habitude de me faire, et parce que moi, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire d'explorer des zones que je ne connais pas.
Eh bien oui. Alors, on va planter un peu le décor pour que les gens qui vont prendre dès le début ce soir pour raconter un petit peu le tout début de l'histoire. On va y suivre la fête d'un grand champion qui vient de gagner une énième victoire. Champion de ski, évidemment, dans la station des Clérises. Et au moment de cette fête, on entend une détonation et on aperçoit en bas dans la vallée une caravane qui brûle. Il s'agit d'un camp de saisonniers. Et évidemment, ça va mettre le feu aux poudres et révéler tout plein de secrets inavouables Maoué dans cette station et notamment ceux de Madame le Maire qu'elle essaye évidemment de cacher, de préserver puisqu'il y a, tout un complexe qui devrait se monter au Cléris, un grand projet immobilier. Et évidemment, pour compliquer le tout, on va voir le retour d'Émilie Carras, une jeune fille bien de la région qui avait quitté sa région avec aux prises évidemment avec sa famille qu'elle ne côtoie plus depuis maintenant des années. Et vous allez vous retrouver, Thibaut, bien justement sous les ordres de cette Émilie Carras, où la relation n'a pas été évidente au tout début entre vous deux.
Non, c'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on forme un couple qui est très très différent. Elle est beaucoup plus jeune que moi, elle pourrait être ma fille, et elle est mon supérieur. Donc voilà, et moi je suis de la vieille école, je suis un type qui est revenu un peu de tout, qui c'est une espèce de flic un peu à la Wallander comme ça, qui est un type qui vit seul, qui est un ancien alcoolique, qui a visiblement, bon, il a été, c'est un gars du pays parce que le cerveau c'est vraiment un nom de savoyard. Mais il a passé une grande partie de sa vie apparemment en Bretagne, où on imagine qu'il a dû être marié, il a perdu un fils dans un accident de voiture, voilà. Et c'est une espèce de vieil ours comme ça qui vit tout seul dans sa baraque, qui le retape. Et là, il se retrouve tout d'un coup avec quelqu'un qui va un peu lui secouer les puces et l'obliger un peu de sortir de sa zone de confort, encore une fois. Et au début, c'est tendu, et puis assez vite, il y a une certaine tendresse et respect et amitié qui se noue
entre les deux. Et alors moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est cette sensibilité que vous avez mis dans ce personnage, Thibaut.
Oui, c'est ce que j'avais envie. Je voulais pas en faire le gendarme type qu'on a l'habitude de voir partout et tout le temps. Je voulais en faire d'abord et avant tout un être humain. C'est-à-dire que c'est la première fois que je joue un gendarme en uniforme, en tout cas. Et parce que ce qui n'est pas rien, parce que une fois qu'on est planté dans l'uniforme, on est enfermé dans une coquille. J'avais l'avantage que ça se passe à la montagne. Du coup, je pouvais mettre des couches et des couches. Il a l'air par moments espèce de bibindum, un peu vieux nounours, oui, c'est ça, ouais.
Quelle scène vous a le plus marqué?
Je sais pas s'il y a une scène qui m'a le plus marqué. Je sais qu'il y avait une scène qui était pas facile à faire pour moi. Qui est la scène où il reboit après avoir passé des années d'abstinence puisqu'il est aux alcooliques anonymes. Tout d'un coup, il craque et il va picoler. Et c'était une scène qui était pas évidente à faire pour moi. Voilà.
Eh ben oui, j'imagine. Mais quel souvenir vous garderez de ce tournage? À part les paysages évidemment somptueux dans lesquels vous avez pu tourner. On dit souvent qu'un tournage à la mer, c'est une chance, mais un tournage à la montagne aussi parce qu'on prend un grand bol d'air frais. Vous avez tourné l'hiver dernier, hein.
Oui, absolument. C'est du même ordre, effectivement, que de tourner à la mer. C'est même presque plus, je dirais que la montagne, et surtout quand on y tourne à cette période-là, c'est-à-dire que nous, on est arrivé en automne, tout était doré, il y avait encore de l'herbe verte, etc. Il faisait beau, il faisait assez doux. Et en une semaine, tout est devenu blanc. Ça, c'est magique. C'est-à-dire, et puis blanc et très blanc, parce qu'il a beaucoup neigé. Donc, c'est assez magique. Et tout d'un coup, on a l'impression d'être pas coupé du monde, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que on est dans un espèce de bateau, qui va durer un certain temps.
Ouais, du coup, c'était bien pour Fred Grivois. Il était habitué à ce climat et ce tournage un peu dans des conditions extrêmes, quoi.
Oui. Mais c'était difficile parce qu'il y a eu vraiment des journées où on était tourné en haute montagne. Où les techniciens tombaient dans les pommes, hein, tellement il faisait froid.
Hein. Et puis j'ai vu qu'il y avait des couches de neige. Quand vous avez une course pour arrêter quelqu'un, on va pas en dévoiler plus, mais vous avez une petite course tous les deux pour arrêter quelqu'un. Il y a quelques centimètres de neige quand même. Hein.
Et oui, absolument, tout à fait.
Bon, les projets, Thibaut, on va évoquer évidemment vos projets pour 2023. Alors cette suite de 10%, on en est où? Est-ce que ça avance un petit peu?
Alors, il semblerait que Fanny Herrero, donc qui était la showrunner de la série, se soit remis à l'écriture d'un film. Donc, on attend. Pour l'instant, on en est là. On ne sait pas exactement quand et quand sera finie l'écriture et quand le tournage pourra commencer. Donc, il y a ça. Là, je viens de finir une très grosse série pour Apple, qui est une série sur Benjamin Franklin, donc une série d'époque qui se passe... 18e, dans lequel je tiens un rôle assez important et qui est avec Michael Douglas, avec beaucoup d'acteurs anglais, américains, qui est un gros, gros truc, qui a duré 7 mois de tournage et qui est une mini-série qui devrait sortir d'ici un an, je pense.
Ouais.
Je commence une pièce à partir du 10 février au Théâtre Libre à Paris sur l'adaptation d'un bouquin des journalistes du Monde, Davé et L'Homme, qui avait écrit Un président ne devrait pas dire ça, qui était le bouquin qui avait coûté un peu sa réélection à Hollande. Il y a une adaptation au théâtre de fête et on le joue du 10 février au 20 avril. Voilà, pour l'instant c'est ça. Il y a des projets après de tournage qui sont en train de se monter et dont je ne peux pas parler pour l'instant parce qu'ils sont pas finalisés. Mais enfin, il va y avoir pas mal de choses. Oui.
Eh ben, ça va être l'occasion de se recroiser très prochainement, du coup.
Oui, absolument.
Merci beaucoup Thibaut d'avoir été avec nous. On vous retrouve ce soir dans Piste Noire à 21h10, juste après un si grand soleil sur France 2, pour découvrir ces deux premiers épisodes passionnants qui vous attendent. Merci et à très bientôt.
Merci Alain, au revoir.
Et tout de suite à bande-annonce.
Bonsoir Monsieur Jourdan.
À Fauvel, allez vous servir un verre, moi.
Cléry 3000.
Oui, Zachary.
Ma l'identité du type, c'est Corto Fioraventi.
C'est un gars du coin. Les types ont trouvé quelque chose d'intéressant.
100 000, 150 000 euros.
Il bossait dans un bar, le tremplin.
Il dit les quoi, Corto?
Les mecs, ils passent des kilos d'herbe sous vos yeux depuis 3 ans et vous avez jamais rien fait.
Et on va parler maintenant de l'affaire Annette Zellman avec Ilona Bachelier, Vassily Schneider, les deux protagonistes de cette fiction que vous découvrirez mercredi sur France 2. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors tu es l'héroïne, Ilona, dans ce film. Tu joues le rôle d'Annette. Qu'est-ce qui t'a séduit en premier dans cette histoire dingue inspirée d'une histoire vraie?
Je dirais ce qui m'a séduit en premier, c'est l'époque et la force du personnage d'Annette et de sa famille. Ça... force de conviction à vouloir suivre ce qu'elle veut malgré un contexte hyper difficile et très pesant. Donc sa joie de vivre et sa force personnelle.
C'est ce qu'on disait, c'est vraiment une histoire d'amour que l'occupation est venue bouleverser aujourd'hui. Comment tu définirais justement cette histoire entre Annette et Jean?
Bah, c'est une relation amoureuse, passionnelle, mais qui, si l'histoire s'est pas déroulée comme ça, aurait continué, je pense, dans le temps, enfin j'en sais rien. Mais ils s'aiment pleinement pour ce très forte, parce que malgré tous les événements dont ils sont conscients, ils veulent faire éclater leur amour au grand jour et ils se battent pour ces choses-là alors qu'ils ont que 20 et 25 ans. Donc c'est super jeune.
Comment tu t'es préparée pour le rôle? Tu t'es documentée, tu t'es renseignée, t'as lu des livres peut-être? Comment t'as fait?
Alors j'ai pas lu le livre de Laurent Joly, mais j'ai travaillé avec Vassily et Philippe, on s'est rencontrés, on a fait des lectures. Après, on a eu la chance de pouvoir rencontrer Michèle Zellman, qui est du coup la sœur d'Annette, sa petite sœur qui est encore vivante aujourd'hui. Donc une rencontre très forte et elle avait une énorme générosité puisqu'elle a partagé avec nous volontiers ses souvenirs et elle nous a parlé de sa famille et d'Annette. Donc ça, c'était assez fort. Elle a dit que j'avais le sourire de sa sœur, donc c'était très très touchant. Et après, sinon, j'ai essayé de regarder des photos, j'ai écouté de la musique et je me suis concentrée sur ce que une jeune femme de 20 ans ressentirait dans ces moments-là. De quoi ça parlait vraiment, malgré le contexte autre? Qu'est-ce que c'est que de se battre pour son amour, de vouloir croire à l'insouciance? Enfin, j'essaie de me reconcentrer sur elle, ce qu'elle ressentait plus. Voilà, j'ai pas. Et après, j'ai regardé une jeune fille qui va bien. Je l'ai regardée après.
C'est un défi de tourner, d'être en 1942. C'est une immersion totale. Tu tournes en costume et tout. Ça, c'est vraiment quelque chose de chouette pour un comédien, justement, un véritable défi.
Ah oui, c'est génial. Alors, c'est 2 heures de coiffure et maquillage tous les jours, donc ça fait se lever tôt. C'est génial de pouvoir changer complètement de tête parce que moi, j'ai les cheveux très bouclés. Moi, je me suis coupée, mais j'avais pas la même tête en Annette qu'en Ilona. Donc, il y a déjà cette transformation qui se passe, qui est super, super chouette. Et de voir tout le monde habillé aussi de manière classe, c'est vrai que je me suis dit que ça faisait plaisir de voir des gens bien habillés. Enfin, je dis pas qu'on est mal habillés, mais un peu plus classe, quoi.
Comment vous avez vécu ce tournage tous les deux? Est-ce qu'il y a un moment en particulier qui t'a le plus marqué, toi Ilona?
Oui, la deuxième semaine, vraiment quand j'ai pris conscience que on a tourné l'arrestation d'Annette et les tourelles à 2 jours près et 80 ans, parce qu'elle s'est fait arrêter, je crois, le 22 mai, je crois, faudrait vérifier.
Et on a pris conscience de la charge de l'histoire.
Exactement, et là je me suis dit, c'est ça, tu prends conscience de la charge, c'était assez fort comme moment.
Merci Ilona, je sais que ça s'enchaîne très très vite. On va continuer avec Vassily aussi et on va te laisser rejoindre un confrère. Merci beaucoup à toi.
Super, merci beaucoup.
Alors Vassily, comment t'as vécu justement toi aussi ce tournage, cette immersion?
J'ai super bien vécu, c'était un moment très à la fois joyeux sur le tournage et en même temps pesant parce qu'on racontait une histoire qui est très forte, très dramatique et en même temps on incarne une vraie histoire qui s'est réellement déroulée.
Très contemporaine à la fois aussi, mine de rien pour être aussi très bien transposée, si elle n'était pas pendant la guerre, peut-être de nos jours ou du moins plus proche de notre époque. Hein.
Oui, c'est une histoire. Alors c'est un film d'époque. C'est vrai que ça peut faire écho aujourd'hui, par exemple à l'Ukraine. C'est vrai qu'en France aujourd'hui, on n'est pas sous occupation, donc on peut pas vraiment transposer ça aujourd'hui. Mais l'antisémitisme ou le racisme ou l'homophobie existe toujours. Donc effectivement, il y a un certain écho à l'histoire aujourd'hui. Et après, oui, le tournage, comment je l'ai vécu, il y avait extrêmement de joie et de pression interprétée. Des personnages qui ont réellement existé, on avait l'impression d'être entouré de fantômes presque, on était observé parce que Michel Zellman existe encore, donc il y avait aussi cette pression là vis-à-vis d'elle.
Comment tu le définirais, Jean?
C'est un jeune homme plein de bonheur, qui est très insouciant. C'est un jeune homme qui a pas envie de se laisser abattre, qui est prêt à faire énormément de concessions pour vivre. C'est-à-dire que ses parents lui essaient de lui empêcher d'aimer Annette, et comme ses parents essaient de lui empêcher d'aimer Annette, il va décider de rompre avec ses parents.
Il lâche rien, oui.
Il lâche rien. Il préfère rompre avec ses parents plutôt que d'annuler son amour. Il est conscient du danger et pourtant il refuse rien. Donc ça, c'est quand même, oui, c'est un personnage qui est très fort et à la fois extrêmement poétique, un personnage très fort.
Vassilie, comment tu t'es préparé toi au rôle? Tu as lu le livre pour le coup avant, ou des fois on prend la décision quand on incarne un personnage de ne pas lire le livre dont t'es adapté justement pour se l'approprier peut-être aussi? Comment tu fais toi?
Alors j'ai pas lu le livre parce que je pense qu'il y avait autant d'informations dans le scénario que dans le livre, surtout que en fait c'était pas un livre, c'était vraiment un chapitre sur un livre plus grand qui s'appelle Dénoncer les Juifs sous l'occupation. Donc le chapitre, c'est un court chapitre. Le scénario, il donnait autant finalement d'informations. Comment je me suis préparé au rôle? Alors déjà il y avait cette chose, le langage de l'époque qui était un peu compliqué à s'approprier au début. Aujourd'hui on parle pas comme on parlait avant, et donc j'ai regardé beaucoup de films d'époque, je me suis mis à lire beaucoup de livres de cette époque, des livres audio également, pour avoir cette espèce de phrasé sans être dans la caricature du phrasé de l'époque, parce que j'avais
le plus juste possible.
Voilà, j'avais pas envie de parler avec une voix nasillarde comme ça, mais j'avais envie en tout cas de pouvoir sortir naturellement des mots que je ne dirais jamais moi personnellement. Donc c'était assez compliqué de s'approprier le texte. Après, sur le personnage, j'ai dû essayer de comprendre comment on peut rompre avec ses parents, comment on peut renier ses parents. C'est-à-dire que le personnage, à un moment, il dit à son père et à sa mère, je ne suis plus votre fils, oubliez-moi. Essayer de comprendre ça, ça a été très compliqué. J'ai dû m'imaginer un tas de choses.
C'est violent, oui.
Pour essayer de comprendre, parce que j'ai pas vécu la guerre, et donc j'ai pas vécu cette histoire. Donc essayer de me dire comment moi aujourd'hui je pourrais en arriver à dire à mon père, je ne suis plus ton fils. Ça a été énormément de travail psychologique.
Ouais, j'imagine. Alors même question pour le coup qu'à Ilona, pour terminer, quelle a été la scène pour toi la plus marquante, un souvenir à nous raconter peut-être du tournage?
Un des bons souvenirs que j'ai du tournage, c'est sur une scène où j'entre dans l'hôpital où travaille mon père. J'entre dans l'hôpital et je me confronte à mon père, et c'est une scène très forte émotionnellement. Et mon père, mon vrai père à moi, m'avait un petit peu coaché pour cette scène parce que il a fait du théâtre aussi et il m'a un petit peu aidé. Il était venu me voir sur le tournage. Une fois que j'avais terminé la scène, il était venu me voir pour me dire que c'était vachement bien et ça m'avait vachement touché. J'étais un peu ému de le voir là, et même de le voir lui ému par la scène, ça a été un moment assez fort du tournage.
Surtout quand on est issu d'une famille artistique très riche, hein, que ça soit toi ou Ilona pour le coup. Voilà, l'affaire Annette Zellman en tout cas, eh bien c'est cette semaine sur France 2. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, je vous conseille. Vous allez découvrir peut-être une face méconnue de la petite histoire dans la grande. Merci Vassilie d'avoir été avec nous. Et puis on a justement Ilona qui vient nous refaire un petit coucou pour nous dire au revoir juste avant de partir. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Écoute la télé, le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné est consacré à Vaincre ou Mourir. Le film sort mercredi dans les salles. C'est la première production signée du Puy du Fou. Alors évidemment, dans notre région, on connaît bien le Puy du Fou. Et justement, Guillaume Allaire, le producteur, est avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être là. Hugo Becker est avec nous également, qui joue le rôle de Charette, puisque c'est Charette qui a l'honneur dans ce premier film du Puy du Fou. Bonjour Hugo, merci d'être là.
Bonjour, merci à vous.
et Jonathan Demurger qui est également ici. Bonjour Jonathan.
Bonjour.
Guillaume, première chose, on va déjà revenir sur cette première production. Ça met un petit coup de pression de présenter cette production au public là dans deux jours. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là?
Bah écoutez, c'est comme une grande première. Nous, on a l'habitude de ça chaque année en lançant notre parc, ses nouveautés, ses nouveaux spectacles, voire même quand on ouvre d'autres à l'étranger. Mais là, c'est une double grande première parce que c'est la première fois qu'on se lance dans le cinéma sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Donc évidemment, on a l'impression d'avoir franchi la portière. On ne sait pas encore comment le parachute va s'ouvrir, mais en tout cas, on a mis tout notre cœur, toute notre passion autour de ce projet. Et j'espère qu'il ira toucher le cœur des spectateurs comme il a touché ceux de l'équipe et les nôtres pendant la production.
Charrette, c'est une évidence que ça soit le premier évoqué dans, j'imagine, ce qui va être une série de plusieurs films à l'avenir, puisque Puy du Fou Film, c'est pas créé pour un seul film, j'imagine.
Charrette, c'était une évidence, tout bonnement parce que c'est le héros préféré de nos visiteurs au Puy du Fou. C'est le spectacle du dernier panache, 12 millions de spectateurs sur les depuis sa création, pardon. Et c'est à la fois une question de cours, du coup, pour nous, parce qu'on connaît bien le sujet, mais c'est aussi une question de cœur, parce que c'est l'histoire de toute une région, la Vendée, et c'est donc une figure à laquelle nous sommes particulièrement attachés.
Hugo, t'as hésité longtemps avant d'accepter ce rôle ou non? J'ai pas l'impression, moi, que t'as hésité très longtemps.
Et pourtant, j'ai hésité beaucoup. Non, mais c'est vrai en plus. J'ai hésité pour une raison simple. Non, mais c'est vrai. Guillaume le savait pas. Non, mais j'ai hésité avant de les rencontrer. Quand on reçoit un projet, on est. Il y a le projet en lui-même, puis il y a les gens qui le font. Et c'est deux choses qui sont tout à fait liées, mais qui n'ont pas forcément lieu en même temps. Quand j'ai reçu le projet, je connaissais pas cette histoire. Le projet était à l'état de prémisse. Et c'est vrai que j'étais à ce moment-là, en plus, j'avais la tête... en fait, quand je fais quelque chose, je le fais complètement à fond. Et du coup, j'ai parfois un peu du mal à me projeter dans autre chose. Et puis, j'ai rencontré Paul Mignot, j'ai rencontré Vincent Mottez, j'ai rencontré le scénariste, j'ai rencontré... Nicolas Devilliers, et ensuite j'ai rencontré Guillaume Allaire, et c'est vrai que j'ai été, enfin ça a achevé de me convaincre, l'enthousiasme de chacun, la capacité aussi sur ce projet qui était un projet en gestation, et la capacité à se dépasser, à dépasser ce qu'il était à la toute base, comme Guillaume le racontait, c'était un projet à la base qui était un docu-fiction de 2 fois 52 minutes qui devient un film de cinéma, un film un peu hybride, un peu ovni, mais qui justement le rend particulièrement intéressant. Et en fait, en lisant cette histoire, je dois avouer qu'il y a quelque chose qui m'a secoué. D'abord mon ignorance, parce que j'ignorais complètement le sujet, et puis ensuite j'ai envie de dire l'importance de raconter une telle histoire qui a eu lieu, et de faire honneur aux victimes. Et je pense à toute une partie de la Vendée et des Vendéens qui avaient envie que leur histoire soit reconnue, tout simplement. Et je pense que le temps qui s'est écoulé depuis fait que certaines plaies se sont peut-être apaisées, mais il y a un besoin en fait qu'on reconnaisse l'histoire et ce qui a eu lieu.
Jonathan, ça met une petite pression justement, et un devoir de mémoire aussi vis-à-vis des victimes, vis-à-vis de l'histoire quand on tourne justement ce style de film.
Ah oui, bah de toute façon, c'est vrai que en fait, comme Hugo vient de le dire, c'est une histoire qui est connue, mais ses principaux acteurs sont un peu méconnus du grand public. Donc, on retrace une épopée extraordinaire d'un héros, et à travers cette histoire, ça met aussi, ça retrace le drame qu'ont pu vivre tout un peuple en fait, qui est passé dans l'oubli. Et c'est un devoir de mémoire, oui. Ça met une pression supplémentaire aussi, oui. Parce qu'on veut être à la hauteur de ces gens, le film leur est dédié, et c'est important pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on garde en tête de toute façon, parce que c'est un drame qui est arrivé. Alors il faut en parler, faut pas le laisser dans l'oubli.
Alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est que à la fois ça paraît tellement loin et à la fois tellement proche, 200 ans. 220, voilà, on est à la fin de la Révolution, après la Révolution française, où commence l'histoire, Guillaume, la prouesse aussi. En 18 jours, ça veut dire que le film a été tourné encore plus rapidement qu'un film pour la télévision aujourd'hui qui met 20-21 jours. Comment on fait pour tourner un film, un grand spectacle, mais en 18 jours avec autant de comédiens, autant de figurants?
Il faut embaucher de bons acteurs.
J'allais y venir, tu vois.
Je pense que Jonathan en témoignera comme moi. Et de bons cascadeurs, vrai ou faux, Jonathan?
De toute façon, pour faire ce genre de prouesses techniques, il faut être entouré des bonnes personnes à tous les chefs de poste, les acteurs, mais que ce soit la technique, à l'image, à la lumière, au costume, mais surtout les acteurs, Mais non, c'est vrai que.
Rendons à César ce qui est à César. Évidemment, les comédiens ont été parfaits. Ils se sont impliqués. Ils ont incarné leur rôle chacun autant qu'ils sont. Bien sûr, il faut rendre aussi hommage au réalisateur Paul Mignot, avec à ses côtés Vincent Mottez, co-réalisateur, parce qu'ils ont, nous on était là derrière eux en tant que producteurs pour tenir les délais, pour tenir le plan de travail, pour tenir les séquences jour après jour à côté du producteur exécutif et du directeur de la production. Et enfin, on a cette force au plus du fou d'avoir tout à domicile, c'est-à-dire les cascadeurs, les costumiers, les costumes, les décors, l'hébergement. Donc vous gagnez un temps fou en opération au quotidien, en temps en logistique, et là aussi ça me permet de remercier toutes les équipes du Puy du Fou.
On écoute la bande-annonce Vaincre ou mourir, ça sort mercredi dans les salles et on revient juste après avec vous. On écoute.
La Convention nationale a décrété la levée de 300 000 hommes pour combattre à la frontière de l'Est.
La guerre !
Non ! La guerre !
Mon frère, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce qu'ils ont besoin d'un chef. Un chef qui connaît l'art de la guerre.
À mort !
Après avoir incendié toute la Vendée, voilà qu'elle nous incendie à son tour.
Ce casting est dingue, on le disait, Vaincre ou mourir, c'est mercredi dans les salles. Anne Serra, Rod Parado, Francis Renaud, Damien Jouirault, les frères Fitoussi, Mickaël et Grégory. C'est vraiment hallucinant ce casting.
Gilles Cohen,
mais oui.
Jean-Hugues Anglade, Olivier Barthélémy, Constance Guez, Khalid Delperin. Non mais c'était un casting absolument fabuleux, Dorca Copin. Non mais vraiment fabuleux, une chance inouïe, enfin pour moi en tout cas, et je pense pour Jonathan aussi, vu le visage qu'il est en train de faire là, c'était vraiment fabuleux pour nous de travailler avec ces gens-là, et ça a créé un esprit de troupe, un esprit presque de famille, et c'était que des gens passionnés, exigeants et surtout tous très très doués. Je pense que c'est un souvenir qui restera gravé en moi d'avoir travaillé avec tout ce monde-là.
Ce que tu as dit tout à l'heure par rapport au fait que tu aies réfléchi à faire le film, moi justement en fait, je pense que ça devait être beaucoup plus dur pour toi d'accepter ou de te dire est-ce que je me vois dedans, est-ce que je vais le faire, que pour moi, parce que moi quand on m'a proposé d'être dedans, donc je connaissais Paul, il y avait déjà tout le monde et j'ai même pas lu, j'ai dit bah oui en fait, mais parce que avec un casting qui avait déjà toi, Greg Fitoussi, Gilles Cohen, Rod Parado, je me dis j'y vais évidemment, c'est que des acteurs pour qui j'ai énormément de respect, d'admiration, et je me suis dit mais évidemment en fait tout de suite, j'ai même pas lu, j'ai dit que j'avais dit oui en fait.
On va évoquer vos meilleurs souvenirs avant de se quitter. Quel moment vous avez dit waouh ?
Moi, ce que je vais retenir, parce que c'était impressionnant, c'était éprouvant physiquement, mais c'est la bataille de Torfou avec les figurants, les chevaux, les combats. On a passé la journée dans la boue et c'est une journée vraiment marquante. Pour le coup, moi, c'est mon souvenir vraiment qui m'a marqué, cette expérience-là, ce moment de tournage. C'était vraiment impressionnant.
À toi, Hugo.
Moi, j'en ai trois. Le premier qui m'est venu en tête, pour être tout à fait honnête, c'est un galop sur la plage assez dingue avec Constance Guay. Le deuxième, il me semble que c'était avec le réalisateur Paul Mignot. Il me semble qu'il y avait son co-réalisateur Vincent Mottet. Il me semble qu'il y avait Francis Podrenard, alias Francis Renaud. Et on était en voiture et on a eu des fous rires. Mais des fous rires, je les vois encore. Je crois que Paul a failli arrêter la voiture tellement on pleurait. On pleurait de rire et on sortait connerie sur connerie, parce que beaucoup de travail crée beaucoup de fatigue crée une nécessité de décompression, et voilà, c'était un craquage complet. Et le troisième souvenir, il est avec ce monsieur qui était à ma droite,
Guillaume
Allaire, et une grande partie de l'équipe, et parfois je crois à la fin on était quand même en comité assez restreint, j'ai envie de dire les derniers fidèles. C'est dans un lieu qui est tenu secret, qui s'appelle les Chauguettes. Et ce lieu-là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on n'y boit pas que de l'Oasis et que du brut de pomme.
T'as raison, c'était un moment fort aussi. Moi, je me souviens d'un instant très particulier. Nous, c'était notre premier film, hein, Puy du Fou. Donc nous, les producteurs, avec Nicolas Devilliers, moi-même et toute l'équipe de Puy du Fou Film, on était présents de la première minute du prêt à tourner jusqu'à la fin de chaque journée, pour comprendre, pour découvrir, pour corriger, pour tenir les timings, etc. Et je me souviens d'une soirée, en fait d'une nuit, je pense qu'il est à peu près minuit ou 1h du mat, on a une journée sans fin. On est au fin fond d'une forêt, accroché à un éperon rocheux et on tourne la scène de la dernière veillée. Le testament un peu spirituel de Charette auprès de ses frères d'armes, de ses derniers compagnons d'armes. Et là, je trouve qu'il y a eu un moment de grâce, en fait, pendant le tournage. C'était un moment très fort. Il est avec...
coupé, hein, dans le film.
Vaincre ou mourir, mercredi au cinéma. On finit très rapidement par vos projets. On va te retrouver dans la troisième saison de Je te promets très très prochainement sur TF1, mon cher Hugo. J'imagine que 2023, il va y avoir plein de belles choses avec toi.
Bah, il y a le film Tempête que vous pouvez encore revoir.
Christian Duguay, oui, qui est sorti le 21 décembre, qui est incroyable, que je conseille vraiment si vous l'avez encore dans quelques salles près de chez vous.
Il y a le film de Romain Quirot qui s'appelle Apache, avec qui j'avais fait Le Dernier Voyage. Et il y a Pour la France de Rachid Ami. Voilà.
Les projets du Puy du Fou, j'imagine qu'un deuxième film est sur les rangs. Alors on peut pas en dire plus, mais il y a plein de projets.
Plusieurs projets sont en développement, mais il est beaucoup trop tôt pour en parler.
Ça sera l'occasion de revenir, du coup.
Ça sera l'occasion de revenir, mais en attendant, vous pouvez revenir au Puy du Fou. Nous avons notre nouveau spectacle qui va ouvrir ses portes début avril prochain en France, mais aussi un nouveau spectacle en Espagne. Notre plus grand spectacle, en fait notre plus long spectacle, la Compagnie de France, le Grand Tour. Le Grand Tour, un grand train spectacle qui va sillonner toute la France à la découverte de ses plus belles merveilles, départ le fin juin 2023.
Jonathan, tes projets pour 2023, est-ce qu'on va te voir dans autre chose?
Oui, écoute, il va y avoir le film de Catherine Corsini, un film aussi avec Ahmed Silla d'Ali Mariar qui s'appelle Comme un prince. Puis après, il va y avoir des petites choses qui sont en train de se préparer et voilà.
Merci Hugo, merci Guillaume également. Vaincre ou mourir, c'est mercredi dans les salles. Merci.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on parlera de la sortie du film La Montagne avec Thomas Salvador qui sera notre invité. On parlera également de La Vie, l'amour tout de suite avec une grande spéciale Nicolas Cuche, Anne-Marie Vin, Sandy Afioni, également l'héroïne de cette fiction événement qui s'annonce sur M6. Bref, une grande spéciale vous attend lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chute, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, midi 7 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure. 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chut, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.